Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La recherche médicale réussit année après année à percer les mystères des virus, à combattre des épidémies, à éradiquer des maladies. Les mains expertes des chirurgiens transplantent des organes, des sociétés de haute technologie fabriquent des prothèses et même des cœurs artificiels. Mais il existe encore aujourd'hui un composant vital de notre organisme qu'aucun scientifique n'est encore parvenu à synthétiser. Ce liquide vital, c'est bien sûr le sang. Notre sang qui transporte oxygène et hormones, qui évacue les déchets, protège, répare, régule globules rouges, globules blancs, plaquettes, plasma, des produits sanguins utilisés au quotidien pour soigner les malades en urgence, en cas d'accident, de façon chronique pour certaines pathologies et aussi pour fabriquer des traitements. Avec au niveau mondial 112 millions de dons collectés chaque année, des besoins en constante augmentation. En France, 10 000 dons sont nécessaires chaque jour. Des dons d'autant plus précieux qu'ils sont gratuits, basés sur le volontariat. Les bénévoles, prêts à passer une cinquantaine de minutes à se faire prélever leur sang au bénéfice d'un parfait inconnu qui se livre donc à cet acte animé par la plus respectable des générosités. La journée mondiale du don du sang, information, sensibilisation, enjeu. Et pour en parler, on vous retrouve en direct d'Aix-en-Provence. Professeur Jacques Chiaroni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de médecine, directeur de l'établissement français du sang Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, spécialiste des sangs rares, enseignant à la faculté de médecine de Marseille. Professeur Chiaroni, en direct des studios de France Bleu Provence, que l'on remercie pour leur accueil. Tout à l'heure, nous retrouverons en direct du Burkina Faso le docteur Salam Sawadogo, médecin et directeur du centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou. En fin d'émission, rendez-vous avec le docteur Catherine Solano, sexologue, qui répond à vos questions. Et bien sûr, pour nous joindre, pour témoigner, le numéro de l'émission 33 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Le don, la collecte du sang en France est un service public basé sur quatre grandes valeurs: anonymat, volontariat, non-profit, bénévolat. Professeur Jacques Chiaroni, est-ce que cette charte, c'est aussi le socle du don du sang au niveau international?
Alors, pas pour tous les pays. Il faut savoir que dans certains pays, y compris en Europe, et notamment pour le plasma, il peut exister deux types de dons. Un don basé sur ce socle éthique, et puis un autre don qui est basé sur la rémunération des donneurs. Aujourd'hui, en France, il faut dire que nous sommes un des très rares pays à appliquer ce concept éthique à tous les types de dons.
Et justement, pourquoi cette valeur de gratuité, c'est aux yeux des établissements du sang, professeur Jacques Chiaroni, quelque chose de si important?
Alors, nous pensons que c'est important parce que, y compris pour le plasma, de ne pas, je dirais, banaliser ce type de don, car ça représente, somme toute, une des dernières barrières à la marchandisation du corps humain, d'une manière générale. Commencer à franchir un certain nombre d'étapes en rémunérant des donneurs pour pouvoir donner une partie d'eux-mêmes, où s'arrêter, jusqu'où aller, et vraiment ça représente un véritable garde-fou pour éviter cette généralisation du don rémunéré, quelle que soit la partie du corps.
Alors on l'a compris, hein, c'est une question aussi éthique, tout dépend de la volonté de chacune, de chacun. Du côté de la motivation, professeur Jacques Chiaroni, ces journées mondiales, don du sang, c'est aussi pour inciter, donner envie. Qu'est-ce qu'on fait pour motiver les donneurs?
Alors, tout d'abord, la journée mondiale pour les donneurs de sang, eh bien, c'est d'abord pour remercier déjà nos donneurs. C'est un élément important parce qu'effectivement, un certain nombre de donneurs, à peu près 1 700 000 donneurs, donnent leur sang par an. Et il faut pouvoir les remercier parce qu'ils sont engagés dans cet acte de solidarité, véritable acte citoyen. Et comme vous le disiez, pour donner une partie d'eux-mêmes vers un patient qu'ils ne connaissent pas. C'est l'occasion aussi, compte tenu de cet événement, de pouvoir sensibiliser l'ensemble de la population au don de sang. Il faut savoir qu'en France, il n'y a que 4% de la population qui donne, et c'est l'occasion par les événementiels qui sont autour de cette journée, la presse évidemment y est d'une grande aide, de pouvoir sensibiliser sur le fait que, comme vous le disiez, il n'y a pas de substitut au sang humain aujourd'hui, et que beaucoup de nos malades ne peuvent vivre, voire survivre, que par la transfusion sanguine. Après, dans le même temps, ça permet d'expliquer un petit peu comment se passe le don de sang, peut-être lever un certain nombre de barrières, de crainte ou de barrières culturelles parfois, parce que nous avons un pays qui est extrêmement diversifié et qu'il faut pouvoir expliquer. Et je pense que l'information, la transparence, l'écoute, l'échange sont des éléments qui favorisent le passage à l'acte et évidemment l'engagement vis-à-vis de ce don qui est fondamental pour traiter des patients.
Alors justement, la pédagogie, on va se retrouver dans quelques instants, mais d'abord une petite immersion, on va vous retrouver après, professeur Jacques Chiaroni. Très bien.
Priorité santé sur RFI.
Avec cette illustration, on se rend tout de suite dans un centre de don du sang. C'est à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Les donneurs se succèdent sans rendez-vous. Seule condition, être majeur et en possession d'une pièce d'identité. Sur place, Philippine Lebret a rencontré Laetitia. Elle nous guide dans ce centre.
Donc, je vous rappelle, je vous donne les questionnaires à remplir. Vous vous installez dans les petites fauteuils ici. Surtout, vous pensez à bien vous hydrater. Et le médecin viendra vous chercher pour passer l'entretien avec vous.
Donc le questionnaire s'appelle « Document de préparation à l'entretien préalable au don du sang ».
Voilà, il y a des questions très simples. Vous sentez-vous en forme pour donner votre sang ? Oui, sinon je ne serais pas venue. Avez-vous voyagé au moins une fois dans votre vie hors du continent européen ? Oui. Avez-vous voyagé hors de la France métropolitaine durant le dernier mois, même pour une escale ? Non. Voilà. Donc maintenant, j'attends le rendez-vous avec le médecin. Il prend l'attention. Et puis ensuite, on passe dans la salle de prélèvement. Bonjour.
Bonjour. Vous avez fini votre questionnaire ?
Oui, j'ai fini.
Ok, on y va. Merci.
Parfait. Je m'appelle Laetitia, j'ai 37 ans et je suis professeure de français.
Pourquoi c'est important pour vous de donner votre sang ?
Parce que il y a trop peu de donneurs. Ça coûte absolument rien, ni en termes de douleur, ni en termes de conséquences médicales. C'est purement gratuit et c'est absolument utile. Moi-même, j'ai été amenée à donner par quelqu'un qui m'avait dit qu'il y allait. Et mon père donnait beaucoup, donc je voyais que c'était des pratiques qui rendaient les gens assez contents, en fait. Et c'est vrai, ça fait assez plaisir.
Vous installez à gauche ou à droite selon
droite.
Votre bras ?
Oui.
Et l'infirmière va venir s'occuper de vous.
Alors, vous avez bien mangé, bien bu aujourd'hui ? Donc, je désinfecte.
Au niveau du pli du coude, donc ?
Alors oui, la ponction, elle se fait au niveau du pli du coude. Il faut avoir de relativement bonnes veines, mais généralement, même si les veines ne sont pas apparentes, les infirmières de don de sang sont habituées et on arrive à piquer. On y va ?
Oui.
Vous respirez bien, vous regardez pas, on y va. Voilà. Donc là, j'ai réalisé la ponction. On récupère une petite partie du sang pour faire les tubes d'examen, effectivement, pour garantir la sécurité et du donneur et du receveur, bien entendu. Et le reste du sang coule naturellement dans la poche grâce au garrot.
Les aiguilles et voir le sang qui s'écoule de votre corps, ça vous fait pas peur, ça vous fait rien ?
Non, ça ne fait rien. Ça fait vraiment pas mal. C'est juste quand ça pique un peu quand on met l'aiguille, mais sinon après là, il n'y a rien qui fait mal du tout.
Donc là, le prélèvement est terminé. La machine s'arrête toute seule. Le prélèvement s'arrête et l'infirmière vient retirer l'aiguille. Voilà, et ça fait pas mal. Normalement.
J'ai même pas senti qu'elle avait retiré.
Vous avez prélevé combien ?
Donc on prend 480 millilitres. Ça fait deux verres, puisque les verres, c'est environ 25 centilitres. Donc voilà, c'est un peu moins d'un demi-litre. Donc, je vous ai fait un petit pansement qu'il faudra bien garder pendant deux bonnes heures pour arrêter le saignement. Si vous avez de la fièvre dans les 15 jours, il faut appeler le petit numéro, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous buvez beaucoup pour vous réhydrater, pas de sport pendant 24 heures, pas de port de charge lourde sur le bras, pas de cigarette dans les deux heures. Vous partez pas sans faire un petit tour à la restauration, bien boire, bien manger. Et voilà. Bah, va merci bien, beaucoup. Vous sentez bien?
Oui, oui, ça va. Ouais.
Prenez votre temps quand
même. Oui, merci, merci. J'ai jamais eu la sensation de malaise. Enfin, je crois que c'est tout à fait bien étudié pour qu'on se sente pas mal à la fin.
Bah, merci beaucoup.
Bah, merci beaucoup, bonne journée.
Ouais, à vous aussi.
Donc on va dans l'espace de restauration.
Oui.
Mesdames, bonjour.
Bonjour.
Commencez par boire un petit verre d'eau, oui. Après un don de sang, parfait. On a un plat chaud, des penne bolognaise ou couscous. Ou si vous voulez un club sandwich, repas froid.
Non, moi ça va, j'ai déjà déjeuné, mais je vais prendre des petits biscuits.
Des petits biscuits.
Et un café. Ouais, je veux bien un café, oui.
D'accord. Ça marche.
Merci beaucoup.
Merci, passez une bonne journée.
Merci de même.
Reportage de Philippine Lebret. On vous retrouve, hein, professeur Jacques Chiaroni, toujours en direct d'Aix-en-Provence. Ce prélèvement du sang, le protocole, ces étapes, c'est quelque chose qui est un petit peu uniformisé.
Oui, il faut savoir que c'est quelque chose qui est évidemment harmonisé au niveau national, avec toutes les étapes qui sont nécessaires, entre le moment où on reçoit le candidat au don, on passe par ces différentes étapes de d'évaluation de l'aptitude au don de sang, avec le questionnaire, comme vous avez vu, puis l'entretien avec un médecin ou une infirmière habilitée, puis ensuite le prélèvement qui est très rapide, hein, moins de 10 minutes, et puis ensuite évidemment le moment convivial de la restauration et à nouveau l'échange avec le personnel de l'établissement qui permet en même temps, outre le fait de surveiller que tout se passe bien, c'est de pouvoir échanger et d'apporter un certain nombre d'informations aux donneurs, surtout dans un objectif de fidélisation bien sûr.
Alors on entendait l'expression, hein, ça fait un peu froid dans le dos, deux verres de sang, professeur Jacques Chiaroni, bien évidemment, on n'est pas des vampires, on va pas boire tout ça. L'image est assez parlante. Il faut combien de temps à l'organisme pour qu'il compense ?
Écoutez, il faut savoir qu'il existe des systèmes régulateurs qui font que dans les heures qui suivent, tout est c'est quasiment immédiat, donc il n'y a pas de problème ou de manque particulier au moment et juste après le don de sang.
Est-ce qu'il existe en France un profil type du donneur ?
Alors oui, ce sont des surtout on a beaucoup de femmes qui donnent leur sang, mais on a les hommes qui sont plus dans la régularité. On a vu des jeunes qui sont très sensibles au don de sang, en particulier les étudiants qui sont vraiment extrêmement engagés, et puis lorsqu'ils ont fini leurs études, eh bien il y a un creux probablement parce qu'il y a d'autres priorités et on les voit revenir un petit peu plus tard au don de sang et on se retrouve avec des donneurs qui sont vraiment engagés, souvent avec un âge un petit peu plus avancé, on va dire, quand ils se sont installés. Et là, c'est justement eux qui sont les plus fidélisés vis-à-vis du don de sang. D'ailleurs, il est classique de dire que lorsque un certain nombre de donneurs quittent nos registres par la limite d'âge, lorsqu'il y en a 100 qui partent, il faut en retrouver 150 pour avoir l'équivalent en termes de nombre de dons. Donc voilà, on est dans une situation où qui est, je dirais, en fonction des âges, qui est variable. Un point qui est important, qu'il faut peut-être signaler, mais sur lequel nous reviendrons peut-être par la suite, c'est que il faudra en même temps que nous puissions avoir une évolution de notre population de donneurs, et notamment une diversification de nos donneurs qui nous permettra quand même que la population de nos donneurs corresponde à la population des receveurs, notamment en termes de groupe sanguin.
Oui, parce que au-delà des questions de transmission de virus, là aussi on va en parler, qui peuvent exclure certains donneurs, se pose bien la question de la compatibilité des groupes. Professeur Jacques Chiaroni, il faut un maximum diversifier.
Absolument. Il faut, comme vous l'avez dit, la sécurité transfusionnelle repose sur deux piliers. Le premier, c'est le pilier microbiologique. Il faut éviter de transmettre une maladie qui est transmissible par le sang. Et l'autre, c'est, je dirais, un pilier que l'on va dire immunologique, parce qu'il faut assurer la compatibilité des groupes sanguins. Si on ne respecte pas cette compatibilité, au minimum, la transfusion ne sera pas efficace. Au pire, elle peut tuer le patient. Or, ces groupes sanguins sont extrêmement nombreux, puisque si l'on connaît classiquement le A, le B, le O, le positif, le négatif, il faut savoir qu'il en existe près de 350 différents. Et de plus, ces groupes sanguins ont des fréquences variables en fonction des populations.
Alors justement, comment on explique ces différences régionales, géographiques en termes de groupes sanguins ?
Alors, vous savez, les groupes sanguins, ce sont des étiquettes, ce sont des molécules qui sont exprimées à la surface du globule rouge. Or, certaines de ces variations de molécules peuvent, comment dirais-je, rendre un individu susceptible ou moins susceptible vis-à-vis d'une pathologie, et en particulier vis-à-vis de certaines pathologies parasitaires comme le paludisme. Donc c'est en gros la sélection naturelle qui va, en fonction de l'environnement dans lequel on a vécu et la population a vécu depuis de très très nombreuses années, que au fil du temps on va plutôt avoir une sélection du groupe sanguin qui est plutôt résistant à cette pathologie par rapport à un groupe sanguin qui fait et qui entraîne une sensibilité, une susceptibilité. Donc au fil du temps, tout cela que l'on appelle la sélection naturelle, les forces sélectives font que on va avoir des fréquences qui vont être variables en fonction des populations. Et on peut concevoir que lorsqu'une population a une fréquence ou un groupe sanguin qui peut apparaître beaucoup plus fréquent, voire même spécifique pour certains, et qu'on est en situation migratoire, eh bien, si on ne donne pas de sang, eh bien, on n'a pas forcément dans nos réserves le sang compatible qui est présent pour pouvoir transfuser. Donc vraiment, à côté de cette autosuffisance quantitative, l'autosuffisance qualitative est un enjeu majeur aujourd'hui et pour les années qui viennent pour pouvoir fournir le produit compatible.
L'importance de cette diversité, on l'a bien compris. Professeur Jacques Chiaroni, on va tout de suite vous poser quelques questions qu'on a reçues sur notre page Facebook, des auditeurs de Priorité Santé qui s'interrogent justement sur le don du sang, des questions très concrètes, hein, comme celle d'Antoine qui est au Bénin à Parakou. Il nous dit « J'aimerais bien donner mon sang, mais je ne le fais pas. » Car si nous on le donne, eh bien quand on a besoin, on nous le vend. Il y a des régions du monde, il y a des situations où quand les personnes ont un véritable besoin de transfusion, eh bien ils doivent donner de leur poche.
Alors, écoutez, je pense que mon collègue africain pourra mieux
répondre
expliciter
tout à l'heure,
répondre tout à l'heure. Ce que l'on peut dire, par contre, c'est que en Afrique, d'une manière générale, même si le bénévolat avance bien, il faut savoir qu'on peut, en fonction des pays, le don de sang peut, du moins reste sur ce que l'on appelle le don de remplacement. Je m'explique. C'est-à-dire que lorsque un patient est hospitalisé et qui risque ou a eu une transfusion, il faut qu'il puisse remplacer les poches qu'il a utilisées par, eh bien, j'ai dit, par des donneurs qui viennent avec lui, je dirais, et qui peuvent apporter les dons de façon à substituer les produits consommés. Alors, quel est le modèle économique ? Cela doit être très variable en fonction des pays et que probablement mon collègue pourra apporter des précisions. Mais cet élément de don de remplacement est quelque chose que l'on voit dans de nombreux pays. Même si, il faut le dire, aujourd'hui, on sent que, et là encore, c'est variable avec des pays, mais beaucoup de pays font un effort très important pour pouvoir évoluer vers le don de sang bénévole et que cette part de don de remplacement puisse se réduire de plus en plus pour accéder au 100% de bénévolat.
Une question de Judita, elle est au Tchad. J'hésite à donner mon sang. Pour donner son sang, est-ce qu'il y a un poids exigé et qu'est-ce qu'il faut manger après ?
Alors, il y a un poids exigé, je parle évidemment des normes françaises, il y a un poids exigé de 50 kilos, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faut manger ? Je dirais tout d'abord, avant, il ne faut pas venir à jeun pour donner son sang, contrairement à des analyses médicales. Et puis, surtout, bien s'hydrater. Après, c'est la même chose. Comme on l'a entendu dans le reportage, il est important de bien s'hydrater parce que, à côté des éléments que nous avons, des éléments figurés du sang qui ont été prélevés, bien on a enlevé quand même une partie importante du liquide. Donc, il est important d'apporter au moins cette quantité équivalente. Quant à manger, bien on peut manger un plat classique. On peut manger du sucre, on peut manger du salé. L'important, c'est de pouvoir, à un moment donné, se restaurer après avoir mangé. Il n'y a pas de plat spécifique.
Alors, on a aussi un auditeur qui est en ligne d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. Cet auditeur, c'est Alexis. Bonjour, Alexis.
Bonjour.
Vous vouliez apporter votre témoignage, on vous écoute.
Voilà, moi je suis Alexis, je suis togolais. J'ai donné déjà du sang 33 fois au Centre national de transfusion sanguine à Lomé. Et depuis, j'ai entendu dire plein de choses par rapport au don, de sang. Il y a plein de spéculations un peu partout. Des gens qui se disent, ok, tu t'en vas te donner ton sang, tu vas avoir des conséquences et tout. Mais moi, j'ai jamais eu de conséquences. Au contraire, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est que quand tu donnes ton sang à Lomé, par exemple, tu as la possibilité dans une semaine de passer au centre pour avoir les résultats de ton test. Et ça te permet de connaître un tout petit peu ton état de santé. C'est gratuit, les résultats. Et puis, tu as la fierté d'avoir de sauver des vies. Moi, c'est ce qui m'a avantagé. Et puis, je vais dire que j'ai commencé les dons de sang depuis 2004. Depuis 2016, j'ai pu donner parce que je suis à Abidjan. À Abidjan, le centre national de transfusion sanguine est un peu loin, contrairement à Lomé. Lomé, effectivement, c'est une grande ville aussi, mais le centre a organisé en fait des collectes pour, avec des unités mobiles où ils se déplacent pour aller à l'université, faire une sensibilisation, demander à tout le monde de venir donner le sang, aller dans les écoles, dans les lycées, un peu partout où on peut avoir des gens dans les marchés à côté, et puis les gens donnaient, ce qui permettait vraiment de réduire pendant les coûts de déplacement. À chaque fois qu'il y avait une unité mobile autour, tout le monde pouvait passer donner son sens et puis c'est intéressant. Voilà.
Merci beaucoup Alexis pour ce témoignage, aussi pour votre générosité. C'est important justement, professeur Jacques Chiaroni, que les installations s'adaptent justement à la situation, notamment avec ces dons, comme le disait Alexis, mobiles itinérants.
Oui, d'abord, permettez-moi de remercier Alexis pour deux raisons. D'abord, parce qu'il est donneur de sang. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il apporte un certain nombre de réponses à des questions que beaucoup se posent concernant l'état de santé. Et je trouve que là, il a bien apporté un argumentaire qui pourrait, évidemment, sensibiliser les plus réticents.
Notamment oui. Sur le dépistage des virus, ça peut être quand même très intéressant de savoir où on en est sur sa santé. Et ce, en ayant des examens gratuits pris en charge par les centres de don du sang.
Alors, oui, c'est vrai que le fait de faire des analyses fait que on a un suivi régulier. Ceci dit, je ne voudrais pas mettre en avant, le fait d'être motivé pour faire des analyses, pour pouvoir donner et de venir donner son sang sur la base de cette motivation.
Surtout quand on l'a fait une fois, en général, c'est bon. Voilà. Alexis l'a fait 33 fois, donc il n'est pas allé pour ça.
Exactement, donc il n'est pas allé pour ça. Voilà, donc ça c'est un point important. Mais c'est l'occasion de se faire prendre attention, etc., quand même, d'avoir un échange, et un échange avec un médecin, ça c'est tout à fait vrai. Alors concernant effectivement la nécessité de l'adaptation, vous avez tout à fait raison, aujourd'hui il faut que nous puissions coller au mode de vie de nos donneurs, c'est-à-dire aller au plus près, et au plus près ça veut dire parfois évidemment se déplacer, on a vu l'exemple des collectes mobiles que nous avons encore chez nous, bien entendu, que nous puissions aller dans des villages, dans des villes, bien sûr, et en même temps, il faut que nous adaptions aussi notre système de collecte sur nos sites fixes pour avoir des heures d'ouverture qui collent au mode de vie, notamment de l'urbain, par exemple. Et en même temps, dans l'évolution de nos outils, il faut que nous puissions évoluer, et c'est ce que nous faisons avec nos outils de communication, et que nous puissions coller avec nos outils, je dirais, il faut coller au mode de vie connecté aujourd'hui de la population pour pouvoir mieux informer, pour pouvoir mieux écouter, pour pouvoir rendre le donneur plus proactif dans, je dirais, son acte de don. Et c'est dans ce sens que l'EFS est en train de développer notamment un outil qui est mis à la disposition des donneurs, qui est un site où il pourra aller regarder un certain nombre d'informations générales et personnalisées. Combien de fois a-t-il donné? Quel est son groupe sanguin? Etc. Où sont les collectes les plus proches? Donc on est vraiment dans le développement et l'adaptation de nos outils pour coller au mieux au mode de vie de nos concitoyens, de façon à fidéliser et à faciliter ce passage à l'acte.
Justement, ce passage à l'acte, Alexis le soulignait, ce sentiment de sauver des vies, c'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité. La même chose tout à l'heure dans le témoignage, dans le reportage avec Laetitia. Justement, cet emploi, l'utilisation des poches de sang, des produits sanguins, professeur Jacques Chiaroni, on doit le rappeler, toutes ces maladies qui sont traitées, prises en charge, et ça sauve des vies au quotidien et ça permet à des gens aussi de continuer de vivre parce qu'ils ont des maladies chroniques très invalidantes.
Absolument. Le sang et la transfusion sanguine permettent tout d'abord authentiquement d'être la thérapeutique de certaines maladies, notamment des maladies du globule rouge, comme la thalassémie dans le bassin méditerranéen ou la drépanocytose en Afrique. La transfusion sanguine permet le traitement de certains cancers. Quand on va traiter un cancer et que l'on va utiliser une chimiothérapie, on sait que c'est une thérapeutique extrêmement agressive qui malheureusement a pour objectif de détruire la cellule cancéreuse, mais en même temps détruit les cellules saines et en particulier les cellules sanguines. Et là, il faut pouvoir transfuser des globules rouges, il faut pouvoir transfuser des plaquettes, sinon le malade va mourir d'anémie ou d'hémorragie. Donc c'est un véritable support à des thérapeutiques comme les chimiothérapies. Et puis, il y a tout ce qui est perte de sang, hémorragie, que l'on peut avoir à la suite d'un accident, à la suite d'un accouchement dit hémorragique. Malheureusement, ce que nous avons vécu dans notre région à la suite d'un attentat, malheureusement, eh bien là, il faut apporter souvent en extrême urgence l'ensemble des composants qui constituent le sang, à savoir les globules rouges, le plasma et les plaquettes. Donc on voit à quel point la transfusion sanguine est une thérapeutique centrale pour pouvoir sauver des vies, et ça n'est pas un vain mot que de dire on est impliqué, on a ce sentiment de sauver des vies, comme vous le disiez, ça n'est authentiquement pas un sentiment. Des gens vivent et survivent uniquement par la transfusion sanguine et donc par la générosité des Français.
Le professeur Jacques Chiaroni, on va tout de suite prendre la direction du Burkina Faso.
Priorité santé sur RFI.
On pourrait retrouver le docteur Salam Sawadogo. Bonjour docteur.
Oui, bonjour Caroline Paris.
Vous êtes médecin directeur du Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou. Docteur Sawadogo, est-ce qu'aujourd'hui au Burkina Faso, il y a suffisamment de dons du sang?
Okay. Merci bien Madame Paris. Permettez-moi de dire bonjour au professeur Chiaroni qui est
bonjour.
Notre maître.
Bonjour.
Et dire merci également à tous les auditeurs de RFI. Et au Burkina Faso, nous avons encore des difficultés à avoir suffisamment de sang pour l'ensemble des malades qui en ont besoin parce que la collecte n'est pas encore suffisante et ne mobilise pas suffisamment de donneurs pour le sang.
Quelles sont les conditions pour être donneur chez vous à Ouagadougou?
C'est presque les mêmes conditions déjà donc, dans presque tous les pays.
Donc être majeur et déjà?
Il y a des conditions d'âge, effectivement, avoir au moins 18 ans. Et nous ne prenons pas un premier don après le 50e anniversaire. Donc, si quelqu'un, après son 50e anniversaire, vient pour la première fois pour le don de sang, nous ne le prenons pas. Et après, donc, il y a des conditions de poids. Il faut avoir au moins 50 kg pour qu'on puisse avoir un prélèvement qui soit suffisant et qui puisse être utile. Et après, il faut subir l'entretien médical avec le médecin ou l'infirmier habilité et qui jugera donc si vous êtes apte sur la base d'un certain nombre de questions et de paramètres comme la tension et comme l'hémoglobine au doigt qu'il doit contrôler avant de pouvoir vous prélever.
Docteur Salam Sawadogo, tout à l'heure vous disiez pas suffisamment de sang donné. Pourquoi? Les gens ne sont pas suffisamment informés ou il y a encore des croyances qui font qu'ils ont en fait des peurs?
Je dirais un peu des deux. Déjà donc, je pense que nous ne les avons pas suffisamment informés. Donc nous accentuons donc chaque jour en tout cas l'information à l'endroit des potentiels donneurs de sang. Et dans ces échanges, on transparaît la peur. La peur, donc, parfois, surtout en milieu rural, et certains nous disent qu'ils n'ont pas suffisamment de sang, certains nous disent qu'ils ne mangent pas bien, certains nous disent que est-ce que s'ils donnent le sang, ils pourront, après, pouvoir travailler et mener à bien des activités au niveau des travaux champêtres.
Mais docteur Sawadogo, c'est donc aussi une réalité qu'il y a des questions de malnutrition, des problèmes de sous-nutrition dans certaines régions qui peuvent aussi faire que donner son sang quand on est déjà un petit peu fragile, c'est plutôt compliqué.
Absolument, absolument. Ça, c'est, j'en conviens. Et c'est du reste donc un gros problème parce que les potentiels donneurs, du fait de cette sous-alimentation, donc ont peur de donner. Et de l'autre côté, chez les malades, c'est cette malnutrition qui fait le lit du besoin de transfusion sanguine, donc dans pas mal de maladies dans notre contexte.
Tout à l'heure, on avait un auditeur du Bénin de Parakou, Antoine, qui disait qu'il avait été témoin, en tout cas, il rapportait le fait que quand on avait besoin de sang dans certaines régions, on nous le vendait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos, docteur Sawadogo?
Il faut dire, je pense que le professeur Thierry donc essaie d'expliquer parce que la transfusion sanguine a un coût. Mmh. Et par exemple, pour le cas de Burkina, nous avons évalué ce coût à environ 50 euros, la poche de sang. Et parfois, donc, le modèle économique dans les différents pays varie. Pour le cas de Burkina Faso, par exemple, donc, le gouvernement a décidé que toutes les poches de sang doivent être données gratuitement aux malades. Mais il y a des pays, effectivement, donc, où le malade doit contribuer. Et il doit donner une petite contribution pour la poche de sang qui lui sera transfusée. Et ça varie de 2000 francs, donc en gros 5 euros. Et parfois, ça peut aller jusqu'à 20-30 euros dans certains pays.
Ce qui représente une somme très importante. Docteur Sawadogo, un dernier message en cette journée mondiale du don du sang, ce message que vous voudriez faire passer à nos auditeurs, notamment au Burkina Faso?
Le message que je voudrais faire passer, c'est inviter les gens à se mobiliser davantage pour le don de sang. Parce que nous avons beaucoup de situations dans nos hôpitaux où les malades ont besoin de sang et ils attendent parfois désespérément. Et nous pensons donc que si les gens se mobilisent et davantage, nous n'aurons plus à regretter des décès d'enfants ou de femmes parce que suite donc à la malaria ou suite à des complications de la grossesse et à des décès qu'on aurait pu éviter. Et si on avait du sang disponible pour ces malades-là. Donc, c'est vraiment que les gens se mobilisent. Et généralement, donc, au lendemain des actes violents, comme les attentats, par exemple, ou de certaines crises, les gens se mobilisent, mais ça n'est pas sur la durée. Alors qu'il faut qu'on puisse, donc, se mobiliser sur la durée et qu'on donne surtout régulièrement. Et ça va permettre d'améliorer non seulement la disponibilité des produits sanguins, mais aussi donc la qualité du sang qui sera utilisé pour les malades.
Fidéliser ce don du sang. Merci beaucoup. Hein, merci d'avoir répondu à nos questions, docteur Salam Sawadogo. Je rappelle que vous êtes médecin directeur du Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou. On vous retrouve, professeur Jacques Chiaroni, toujours dans les studios de France Bleu Provence. On se rend compte de ces grandes inégalités géographiques en termes de structure, de mobilisation des donneurs avec toujours certaines personnes qui rechignent à donner leur sang. Justement, comment faire arriver de nouveaux donneurs pour les fidéliser? On parlait tout à l'heure bien sûr de l'information, mais aussi en termes d'information, on sait bien sûr que la question de la sécurité transfusionnelle, c'est essentiel.
Oui, c'est un élément qui est évidemment essentiel. Il est évident que, concernant le recrutement, je voudrais vraiment ici remercier des partenaires avec qui nous travaillons, et notamment les associations pour le don de sang bénévole, qui sont très impliquées sur le terrain et qui font un travail formidable de sensibilisation, de communication, et notamment tout autour d'une collecte, lorsque nous allons faire une collecte dans un quartier ou dans un village, eh bien il y a tout un travail en amont qui est fait pour mobiliser le maximum de donneurs. Et non donneurs, bien sûr, puisqu'on est dans une phase de recrutement. À côté de cela, on voit que cela ne suffit pas. Si je prends l'exemple de ma région, PACA Corse, il faut savoir que nous ne sommes pas autosuffisants. Nous ne sommes pas autosuffisants, c'est-à-dire que nous transfusons plus que ce que nous collectons. Alors évidemment, nos patients sont traité, parce que l'opérateur unique qu'est l'établissement français du sang permet justement une rééquilibrage des stocks et une mutualisation, absolument. Mais en même temps, il est évident qu'il faut que nous puissions réduire cette dépendance. Alors, quel est le problème? Est-ce que, évidemment, ce n'est pas lié à la générosité des gens du Sud qui expliquent cela. Mais un des points qui est important, puisque Île-de-France est dans la même situation, c'est que nous avons une population qui est fortement urbanisée, avec une concentration très importante dans des villes et des grandes villes, ici Marseille, Nice, etc. Et là, nous avons un problème de visibilité. Autant dans le milieu rural, semi-rural, nous avons des associations qui connaissent tout le monde et qui peuvent mobiliser toute la population.
Et quand il y a une opération de don du sang, par exemple, à la mairie, tout le monde y va, hein, tout le monde se connaît.
Exactement. Alors, on essaye de faire comme ça dans les entreprises, dans des institutions. Mais d'une manière générale, il faut que nous passions beaucoup plus par l'événementiel. Cet événementiel, c'est un exemple aujourd'hui, mais il y en a beaucoup d'autres au cours de l'année pour avoir cette visibilité et, en même temps, s'appuyer sur des institutions qui ont pignon sur rue, comme vous l'avez dit, une municipalité qui, à côté d'organiser une collecte, permet de diffuser sur ses panneaux lumineux, évidemment, toutes les informations nécessaires à telle ou telle collecte.
Des entreprises publiques,
des hôpitaux. Nous avons signé une convention avec Aix-Marseille Université pour pouvoir faire des collectes dans toutes les facultés, etc., etc. Donc, nous avons besoin de nous appuyer pour avoir cette visibilité qui, en milieu urbain, est plus compliquée. Et puis, il y a le comportement. Le comportement de l'urbain, il y a souvent le temps, vous savez, on a vu ce que disait mon collègue africain sur... le fait de rechigner à venir donner son sang. Et là, on peut le concevoir parce que ce sont effectivement des problématiques de santé. Mais beaucoup, chez nous, c'est par exemple le manque de temps. Et il est vrai que le comportement de la personne qui vit en milieu urbain se retrouve dans des situations temporelles un peu compliquées pour pouvoir mettre dans son planning la possibilité de venir donner son sang. D'où la
même
nécessité...
Même si on l'a compris, ça prend pas beaucoup de temps, professeur Chiaroni. Hein.
Alors, même si on l'a compris, c'est vrai que ça ne prend pas beaucoup de temps, mais ce que nous disent les donneurs, c'est toute l'organisation qu'il y a autour de venir exprès en centre-ville, etc., qui demande effectivement une organisation préalable pour insérer même pas cette petite heure pour venir donner son sang. Donc, c'est dans ce contexte que les outils dont j'ai parlé précédemment permettront à ce donneur de pouvoir prendre un rendez-vous s'il le fallait bien à l'avance, de pouvoir voir les heures de fréquentation pour attendre le moins possible, etc., etc. Donc, c'est là aussi de pouvoir faciliter ce passage à l'acte.
Et se donner toutes les conditions pour le faire. Merci infiniment à professeur Jacques Chiaroni pour toutes ces explications. Bien sûr, je rappelle que vous êtes professeur de médecine, directeur de l'établissement français du sang Provence, Alpes, Côte d'Azur et Corse. Encore une fois, on renouvelle cet appel au don du sang, cette journée mondiale, acte irremplaçable. Merci d'avoir été en direct avec nous d'Aix-en-Provence et un grand merci à nos confrères de France Bleu Provence pour leur accueil. C'est le moment de retrouver le docteur Catherine Solano, sexologue. Docteur Solano, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, vous allez nous parler de la sexualité pour les femmes excisées, en particulier des femmes qui expliquent ne rien ressentir pendant les rapports sexuels. Elles se demandent forcément si c'est lié à cette excision. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, non seulement à elles, mais aussi à leur partenaire?
C'est déjà que chez une femme qui a été excisée, le vagin, donc la zone vaginale, est tout à fait normale. Elle n'a pas été atteinte par l'excision. Donc c'est vrai en Afrique de l'Ouest, c'est pas vrai dans tous les pays, surtout en Afrique de l'Est, parce qu'il y a des pays où on fait en plus de l'excision une infibulation, c'est-à-dire une couture de l'entrée du vagin, mais ça se pratique pas du tout à ma connaissance en Afrique de l'Ouest. Donc chez les femmes excisées dans les pays francophones, le vagin, il est normal.
Pourtant, des femmes disent ne rien ressentir pendant l'acte sexuel.
Voilà, exactement. Mais alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui disent ne rien ressentir pendant l'acte sexuel, alors qu'elles n'ont pas été excisées. Il faut savoir que L'intérieur du vagin, c'est une zone qui n'est pas tellement sensible. Surtout au début de la vie sexuelle, moi je remarque ça, il y a énormément de toutes jeunes femmes qui disent, après leur premier rapport sexuel, qui disent « c'est ça dont on parle autant, mais enfin, c'est vraiment nul, je pensais qu'on ressentait plus de choses, que c'était agréable ». Elles n'ont rien senti du tout, ou pas grand-chose. Et en fait, le vagin, c'est une zone qui a besoin de s'érotiser, ça veut dire qu'il y a besoin d'apprendre le plaisir. Le plaisir, il n'est pas automatique et spontané.
Et l'excision ne joue pas à ce niveau-là.
Non, alors elle joue pas mécaniquement au niveau de l'intérieur du vagin, mais elle peut quand même avoir une influence sur les sensations, parce que si vous voulez, d'abord chez certaines femmes excisées, on a aussi coupé les petites lèvres, malheureusement, qui sont à l'entrée du vagin, et donc cette zone qui a été agressée, elle peut forcément se crisper à toute approche, hein. Dès qu'elle ressent un contact, elle se dit « au secours, est-ce qu'on veut encore me faire du mal ?» parce qu'il y a une mémoire du corps. Et donc, ça peut faire mal. Ou même si ça fait pas mal vraiment, ça peut empêcher d'avoir des sensations érotiques parce qu'il y a une peur. Alors d'autre part, même quand les petites lèvres sont intactes, ben le sexe a été agressé par une douleur terrible. Parce qu'il faut savoir que couper le clitoris, qui est un organe extrêmement innervé, ça fait atrocement mal. Et du coup, ben toute la zone à ce niveau-là peut se crisper. Et forcément, une femme qui se crispe, ben elle va pas avoir de plaisir.
Alors le clitoris, justement, on en parle. Est-ce qu'une femme excisée peut ressentir quelque chose à ce niveau-là, quelque chose de l'ordre du plaisir?
Alors oui, mais ça dépend. Parce qu'il y a des femmes qui ont une cicatrice douloureuse au niveau du clitoris quand elles ont eu une excision, donc ça peut être une zone de douleur. Mais quand même, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des femmes qui ont du plaisir au niveau du clitoris, même après une excision. Au début, j'étais étonnée de voir ça, parce que en fait, on a seulement coupé le bout du clitoris. Ça fait déjà très mal, mais ça veut dire qu'il reste la racine du clitoris. Si vous voulez, on coupe peut-être un centimètre, il reste 9 ou 10 centimètres. C'est quand même encore assez grand. Et donc, cette partie profonde du clitoris, elle a des capteurs de plaisir, ce qu'on appelle les corpuscule de volupté. Et là, je peux vous dire qu'il y a des femmes qui ont quand même des orgasmes clitoridiens alors qu'elles ont été excisées.
Alors, est-ce qu'il y a des gestes particuliers pour parvenir justement à ce grand plaisir?
Voilà. Alors, cette zone du clitoris, qui est la racine du clitoris, elle est située à l'avant du pubis. C'est-à-dire que le clitoris, il est situé tout à l'avant du sexe, du côté du pubis, et la racine remonte vers l'os. Et cette zone, elle est intacte. Donc, ces capteurs de plaisir, pour les trouver, il faut appuyer assez fort. Bon, faut pas faire mal, mais il faut une pression appuyée. Et puis, on sent comme un petit tuyau qui remonte le long de l'os du pubis. Et si on appuie dessus, ça provoque des sensations particulières chez la femme. Elle ressent quelque chose de différent. Et moi, je sais que quand je reçois en consultation une femme excisée, je lui montre cet endroit-là. Et donc, elles sont très heureuses de voir que leur clitoris peut fonctionner quand même. Ça fonctionne pas toujours du premier coup, mais ça peut stimuler l'excitation. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il existe une opération de réparation du clitoris qui consiste à faire remonter cette racine à la place où devrait être la partie du clitoris qui a été enlevée. Et donc, il y a des femmes qui retrouvent un plaisir clitoridien de surface, je dirais comme ça.
Merci beaucoup, docteur Catherine Solano. Je rappelle que vous êtes sexologue. Les questions des auditeurs, et c'est Claude qui nous appelle du Cameroun, de Douala. Bonjour Claude.
Bonjour Caroline.
On écoute votre...
Merci de m'accueillir sur votre antenne.
Ça fait plaisir. On écoute votre question au docteur Catherine Solano.
Alors Catherine, dans nos relations avec ma partenaire, elle m'oblige quelquefois à lui faire l'acte de cunnilingus. Et très souvent, je ne me sens pas très à l'aise et aussi, je ne vais pas la fâcher. Et donc, je le fais à contre-cœur. Alors, puisqu'elle a l'écoute, comme moi, je voudrais que peut-être votre parole ou votre conseil puisse nous édifier sur ce dont nous devons nous enseigner quand nous sommes en couple.
Mmh. Docteur Catherine Solano.
Alors, c'est important ce que vous posez comme question, parce que dans la sexualité, il faut jamais se sentir obligé. Parce que à partir du moment où on fait quelque chose uniquement pour faire plaisir à l'autre et que pour nous, c'est pas un plaisir et que c'est une obligation, eh bien, ça devient, c'est comme si la sexualité devenait un devoir conjugal. Vous savez, on disait autrefois, faut faire son devoir conjugal. Et du coup, vous allez avoir beaucoup moins de plaisir et vous allez avoir de moins en moins envie de le faire. Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise avec le cunnilingus, il faut le faire quand vous avez envie et que ça vous fait plaisir, mais ne pas le faire quand ça vous fait pas plaisir. Alors, la question c'est, ben ma partenaire, elle va peut-être pas être ravie. La première solution, c'est de lui expliquer ça, que c'est important. Mais la deuxième, et parce qu'il y en a une deuxième, évidemment, c'est que si votre partenaire aime le cunnilingus, ça veut dire que son clitoris est sensible et que c'est une pratique qui lui donne beaucoup de plaisir. Et alors, il faut savoir que pour stimuler le clitoris, bah, il n'y a pas seulement la bouche, la langue ou même les dents, encore qu'il faut faire attention avec les dents, il y a aussi tout le reste du corps. C'est-à-dire, vous pourriez très bien lui faire des caresses manuelles au niveau du clitoris. Alors, dans ces cas-là, idéalement, c'est soit avec du gel lubrifiant, parce que c'est beaucoup plus doux, vous voyez, ça va être plus similaire à la bouche qui contient de la salive, ou carrément en mettant votre doigt au niveau du vagin, en prenant un petit peu de lubrification naturelle pour que, si vous voulez, ça glisse et ça soit doux au niveau du contact, ou de l'huile, ou du lubrifiant, même de l'huile d'olive ou de l'huile de table, ça peut marcher, hein. Et donc, lui faire apprendre à lui faire des caresses manuelles qui pourront forcément lui donner autant de plaisir qu'un cunnilingus. Et pour vous, ça sera peut-être moins gênant, moins difficile. Est-ce que ça vous semble possible?
Catherine, c'est bien possible. Mais seulement, j'ai l'impression que c'est comme un fantasme pour elle. Elle veut que ça se passe avec la langue. Et j'ai beau l'expliquer que j'aimerais le faire quand je veux et pas que je me sens obligée de le faire. Alors, c'est la raison pour laquelle j'étais obligée de vous appeler et de vous expliquer. Peut-être votre parole va peut-être améliorer quelque chose.
D'accord. Alors, il faut lui demander, je vous conseille de lui dire, mais pourquoi c'est si important pour toi? Parce que vous serez peut-être étonné de la réponse. Elle va peut-être vous dire, j'ai beaucoup plus de sensations, par exemple. Dans ces cas-là, vous allez lui dire, écoute, moi, j'aime bien faire ce genre de geste de cunnilingus, mais pas à chaque fois. Donc, il faut qu'on essaye avec les mains, avec les doigts, avec du gel, à trouver le gel lubrifiant idéal pour que tu aies les mêmes sensations. Si c'est pour une histoire de domination pour vous, eh ben, c'est pas une très bonne idée d'accepter, voyez. Ou peut-être qu'elle va vous dire pour une autre raison, parce que j'adore voir ta tête sur mon sexe, je sais pas. Et vous pouvez lui dire, eh ben, écoute, dans ces cas-là, moi, je veux bien te faire un baiser, mais pas forcément avec cunnilingus à chaque fois. Vous voyez, trouver des solutions qui vous conviennent à tous les deux. Mais pour les trouver, il faut chercher.
D'accord, j'espère qu'avec votre parole, ça va s'améliorer. Mais je vous assure, oui, effectivement, comme vous avez dit, elle est sensible au niveau du clitoris. Ouais. Et oui, évidemment, je le sais, mais j'ai quelquefois aussi envie de lui donner plaisir, pas ma volonté. Mmh. Mais j'espère qu'avec votre parole aujourd'hui, certainement, beaucoup de choses vont s'améliorer.
Voilà, et puis vous pouvez essayer. Je pense, des idées me viennent comme ça. Vous pouvez... Donc, je vous disais, avec les doigts et du lubrifiant, ça peut être bien. Si vraiment elle aime le contact de la langue, vous pouvez acheter une petite éponge et l'humidifier avec un lubrifiant, si c'est plus doux, voyez, et lui faire des caresses avec un petit bout d'éponge ou avec un tissu, ou trouver vraiment quelque chose qui lui donne des sensations suffisamment agréables. Et puis, dites-lui aussi une chose, dites-lui, moi, j'aimerais bien te caresser différemment, parce que un homme, quand il a la tête entre les jambes d'une femme, en gros, il voit pas son visage, son expression et comment elle ressent ça. Donc, lui dire, moi, j'aime bien te regarder aussi quand t'as du plaisir, et pour moi, c'est plus agréable de te faire des caresses avec la main ou avec un tissu ou quelque chose pour te voir avoir du plaisir, parce que ça participe aussi. Donc, trouver d'autres moyens un petit peu détournés d'avoir tous les deux du plaisir. Un dernier mot, quelquefois des hommes sont mal à l'aise avec le cunnilingus à cause des odeurs intimes. Ça peut les gêner ou être pas facile, et donc ça peut être aussi de lui dire, peut-être c'est pas votre cas vous, mais d'autres hommes, j'aimerais bien qu'on prenne une douche ensemble avant et qu'on nettoie bien la zone du sexe, la tienne et la mienne, parce que le sexe oral, c'est beaucoup plus agréable si on se sent propre et qu'on est à l'aise avec les deux odeurs corporelles.
Voilà, Claude, pour ces conseils du docteur Catherine Solano. Excellente journée à Douala au Cameroun. Et merci à vous, docteur Catherine Solano, pour cette réponse. Docteur Catherine Solano, sexologue. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique, réalise votre émission. C'est tout Samaki, Ophélie Lassène, Didier Bleu et aujourd'hui Laurence Nau. Demain, nous serons en direct de l'Institut du Monde Arabe à Paris à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la faim. Et vous pouvez réécouter cette émission sur notre application Pure Radio, également sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique Émission. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.